Pour vous resituer rapidement le projet Participarc et puis pour vous donner les principaux résultats et recommandations qui vont être discutés toute la journée. Donc, je vais essayer d'être relativement synthétique, alors qu'il y aurait beaucoup à dire sur ces 18 mois passés ensemble. Donc, je reviendrai un petit peu sur le contexte, la méthode, les résultats et les recommandations. Donc, au niveau du contexte, c'est un projet qui a duré 18 mois, donc un lancement de l'appel à manifestation d'intérêt par le ministère en 2017, la construction du projet et puis un début en janvier 2018 avec une fin donc en juillet 2018. Ce qui est important, c'est de bien replacer ce programme, ce projet, dans le développement des programmes participatifs. Comme l'a dit tout à l'heure Marilyn Laplace, on est dans une effervescence participative dans des domaines extrêmement variés. De resituer aussi ce projet dans des réflexions institutionnelles assez fortes. Alors, je n'ai pas remis l'ensemble des éléments, mais quelques-uns, comme le programme Repère qui a été cité tout à l'heure, qui est un programme important porté par le ministère de l'Écologie, le rapport Houllier, qui a fait date hein, et qui a été demandé pour une structuration, des documents de la Commission européenne, le livre blanc d'Alice, la charte des sciences et recherches participatives en France, et puis aussi des textes de la Ligue des universités européennes. Donc on voit qu'il y a depuis quelques années beaucoup de secteurs qui réfléchissent aux sciences participatives et qui tentent de les structurer. Donc le programme s'inscrit véritablement dans ces réflexions institutionnelles. J'ai noté aussi la stratégie de recherche du ministère de la Culture, donc avec un objectif, l'objectif 3, encourager les travaux de recherche sur les nouveaux défis sociétaux avec une approche participative. Donc l'approche participative a été citée et la mesure 8, lancer des programmes de recherche favorisant la participation de la société civile. Donc on voit qu'il y a une réflexion interne hein, qui est précurseur à cet appel à manifestation d'intérêt. Les objectifs du projet Participarc, bon, ils étaient de quatre ordres. Déjà, premier objectif, construire un réseau, ce qui n'allait pas forcément de soi, parce que vous le verrez, ce réseau est extrêmement diversifié, avec des points de vue sur ce que j'appelle science participative, mais j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi on a choisi ce vocable. Donc un réseau pour faire connaître ce type d'approche, pour monter en compétences, pour assurer une place aux participants, mais aussi un réseau où on a questionné les expériences, on a beaucoup échangé, puisque 18 mois, plus de 10 réunions plénières, des entretiens, beaucoup de choses ont été faites. Pour caractériser aussi les outils technologiques, pour interroger les freins, les opportunités, et puis pour élaborer une réflexion prospective et donc que l'on remettra au ministère. Mais le ministère a participé à toutes nos réunions et donc a pu aussi échanger et voir comment le projet a évolué. D'un point de vue méthode, il s'agissait véritablement de construire ensemble. On l'a dit, le muséum a une expérience en sciences participatives, mais c'était véritablement une expérience parmi d'autres. On n'a pas souhaité être du tout hégémonique, j'espère qu'on ne l'a pas été, et qu'on a permis à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de s'appuyer véritablement sur les savoirs et savoir-faire des uns et des autres, qui sont, vous allez le voir, extrêmement diversifiés et très très riches. De mettre les expériences, dont toutes les expériences numériques, parce que les outils numériques, ça a été rappelé tout à l'heure, sont extrêmement importants, donc à l'épreuve de la discussion, et puis d'être véritablement ouvert et d'essayer de voir l'ensemble des possibles. Les partenaires, diversité d'expériences, certains très avancés dans les sciences participatives, d'autres non, qui découvrent ou qui souhaitaient mettre en place. Diversité des approches, des termes utilisés, on le verra tout à l'heure. J'utilise le terme science participative, mais beaucoup de mes collègues utilisent d'autres termes. Mais et c'est ça qui fait toute la richesse, diversité des institutions, des laboratoires de recherche, des écoles d'art, des écoles d'architecture, la BNF, les archives. Je vais en oublier, donc je vais, c'est pas bien, mais vous les verrez tout au long de la journée. Diversité des disciplines, archives, bibliothèques, musées, diffusion de la culture scientifique, puisqu'ils étaient présents aussi. Disciplines du web, du numérique, de la communication, patrimoine, architecture, archéologie, art, musique, linguistique. J'ai dû en oublier. Et puis aussi l'approche, alors un peu en regard de la biodiversité, de l'environnement, puisqu'on a à chaque fois pu échanger, ce qui est intéressant, autour des recherches culturelles, mais il me semble aussi mettre en perspective aussi ce qui se faisait dans d'autres domaines, dans le domaine de l'environnement et notamment de la biodiversité. Voilà, donc des réunions studieuses. Je dois quand même souligner, je remercie l'ensemble des collègues présents. On n'a pas eu de baisse de régime. Tout le monde n'était pas présent à toutes les réunions, mais on était très nombreux à toutes les réunions. Et donc ça, c'est, on voit tout l'intérêt. Un parti pris qui a été celui du muséum hein, quand on a répondu à cet appel à projet, c'était dans un premier temps de ne pas se focaliser sur ce qu'étaient ces recherches culturelles et sciences participatives, c'est-à-dire de ne pas dire, de ne pas enfermer, de ne pas exclure a priori et de proposer à ceux qui se reconnaissaient dans recherche culturelle et sciences participatives de participer au réseau. Donc on s'est appuyé sur une définition qui n'est pas forcément acceptée par tous, mais qui nous paraissait suffisamment inclusive. La définition du rapport Houllier, hein, les sciences participatives sont définies comme les formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques professionnels, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée. L'intérêt de cette définition, alors, c'est surtout participation de façon active et délibérée, et cette association entre des groupes différents qui peuvent être des chercheurs qui sont des chercheurs de disciplines scientifiques, de disciplines artistiques, et des non professionnels, non scientifiques professionnels. Et en se disant, et ça c'est vraiment important, on l'avait déjà vécu au sein du muséum, que la diversité est porteuse de frictions créatrices, puisqu'on avait déjà eu des rapprochements entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales. Moi, je suis professeure d'anthropologie au muséum et j'avais discuté donc avec mon collègue Romain Julliard et on avait vu tout l'intérêt de discuter ensemble, alors que pendant plusieurs années, c'était quand même des champs qui étaient très séparés et on ne souhaitait pas forcément se parler. Et là, on sait que c'est vraiment porteur de choses extrêmement intéressantes. Alors, les résultats, des questions communes, et c'est ça où on voit l'intérêt, c'est qu'il y a, quel que soit notre angle d'approche, les questions sont communes. Bon, sur le périmètre, c'est quoi? Et ça, c'est une vraie interrogation, même si on n'a pas souhaité la poser dès le départ. Comment le métier de chercheur et comment les productions évoluent? Ce besoin de nouveaux métiers d'accompagnement, parce que les sciences participatives, elles se font aussi avec d'autres, ou avec des personnes qui ont des compétences, je pense notamment aux développeurs informatiques ou à des animateurs. Faciliter cette relation chercheur-partenaire-participant, mieux engager le participant, quelle est la valeur de la participation, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et puis, autour de l'organisation de la recherche, comment prendre en compte la participation au niveau de l'organisation de la recherche. Alors, dans les résultats, il y a un rapport conséquent qui va bientôt être à disposition. J'ai choisi de répertorier cette analyse, j'aime pas trop les mots anglais, mais SWOT, force, faiblesse, menace, opportunité. Je sais pas comment ça se dit en français, mais l'abréviation. Donc, pour les forces véritablement des sciences participatives en culture, c'est vraiment la diversité des formes et des épistémologies. Je reste persuadée, et encore plus aujourd'hui, que cette diversité, elle est vraiment porteuse d'innovation, et que c'est là où on fera d'innovation. L'intérêt des chercheurs et cette émulation entre les différents chercheurs, je pense qu'on a beaucoup appris des uns et des autres, et ça, c'est vraiment très important et puis une force. Bon, moi, je suis pas du tout spécialiste dans les outils numériques, techniques, technologiques, mais je comprends en tout cas ces développements techniques, technologiques, numériques. Je ne sais pas si j'ai employé les bons termes, qui sont extrêmement rapides et qui offrent aujourd'hui des potentialités assez inouïes et extrêmement intéressantes, quelles que soient les disciplines. Les faiblesses, parce qu'il y en a, un certain cloisonnement, donc le réseau Participarc a souhaité décloisonner, une incertitude sur de cette recherche participative, de ces sciences participatives, sur l'évolution des projets, la capacité à publier rapidement. Un projet participatif, il y a plus d'incertitudes, c'est parfois complexe à mettre en œuvre, avec des partenaires, il faut mobiliser les participants. Et puis certaines difficultés à se former sur le plan organisationnel, comment mettre en place et ne pas répéter des erreurs qui ont déjà été faites par nos prédécesseurs. Sur les questions organisationnelles, sur les questions techniques, tout le monde, voilà, comment discuter avec les développeurs ou avec les personnes qui sont capables de voir toute l'importance de ces outils. Et puis, bien sûr, les questions juridiques qui évoluent. Et aujourd'hui, il y a des grandes questions, notamment avec les RGPD. Des opportunités, c'est, comme l'a rappelé tout à l'heure Marilyn Laplace, l'engouement sociétal pour la participation dans les différents domaines. Donc c'est une opportunité. La reconnaissance aujourd'hui quand même de plus en plus importante des apports des sciences participatives dans le domaine scientifique, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc on voit qu'il y a une reconnaissance et puis cette maturité alors à la fois des bases de données et puis des principes d'analyse scientifique. Les menaces qui existent, hein, le risque de confusion entre recherche et autres dispositifs participatifs. On est là sur les périmètres de qu'est-ce que les sciences participatives. Aussi, une menace, ce serait de faire des sciences participatives de manière systématisée. Il faut que ces sciences participatives, il y ait un intérêt à les faire. Des réticences institutionnelles qui existent encore, sur ceux qui ne connaissent pas les sciences participatives. Et on a fait des expériences assez intéressantes où les gens ne voient pas, sont toujours, se demandent mais quel intérêt de faire des sciences participatives. Et puis, un manque de financement dédié. Donc, face à cette analyse, un certain nombre de recommandations, et j'en terminerai par là. Donc, quatre grands secteurs de recommandations. Premier, c'est donc qui émane du groupe. Hein. Premier, aider les acteurs de la recherche culturelle à s'organiser. Donc, l'intérêt d'identifier, de reconnaître ce réseau pour que les gens puissent se rencontrer, se compter. C'est déjà important, savoir qui fait quoi. Le deuxième point, faciliter la circulation des expériences pratiques au sein de ce réseau et au-delà du réseau. Une recommandation, mutualisation interministérielle des outils. Et donc, parce qu'il y a des outils qui sont notamment des outils technologiques, numériques. Mes collègues me corrigeront peut-être sur mes termes. Mais qui peuvent être des outils importants, donc... pourquoi pas une mutualisation interministérielle. Et puis, une reconnaissance de temporalités qui sont différentes, les temps de la recherche, les temps des données, de leur pérennisation. Deuxième aspect, faciliter le développement des sciences participatives avec la formation continue. On a vu qu'il y avait des besoins en formation. Cette reconnaissance des sciences participatives comme une nouvelle pratique culturelle. Le soutien à la création de temps forts et d'espaces d'offres et de demandes, notamment aussi, ça c'est important, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sur les territoires, c'est les différentes échelles. Il faut aussi avoir une action spécifique sur les territoires. Les financements, bien sûr, qui prennent en compte la mobilisation de participants et la reconnaissance des participants. Qui doivent être dédiés, et puis des financements de thèses sur les sciences participatives, parce que, comme l'a dit aussi Bruno David, la réflexivité est vraiment importante. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Affecter utilement les financements, notamment à travers des plateformes numériques opérationnelles, leur élaboration, leur maintenance, leur pérennisation. Favoriser la pluridisciplinarité dans les appels à projets, Et puis, ça, c'est un point qui nous est apparu vraiment important, aussi la mise à disposition de compétences, parce qu'il y a des compétences spécifiques qu'on n'a pas souvent dans les centres de recherche, donc d'architectes logiciels, bêta-testeurs, développeurs, etc. Et enfin, je vais terminer avec cette dernière diapo sur aussi dans l'organisation de la recherche, aider les sciences participatives à peser dans la recherche aujourd'hui, donc en montrant les bénéfices donc, des sciences participatives en culture, en inscrivant la participation dans les documents de stratégie des établissements de recherche et producteurs de corpus, de donner une grande visibilité aux recherches participatives, notamment à travers un portail des sciences participatives, de travailler sur les différentes échelles territoriales. J'en ai un peu parlé, mais être attentif à ces sciences participatives au niveau local, régional, national, européen et international, de mettre en avant l'importance des jeux de données participatives dans les carrières scientifiques, d'inscrire les sciences participatives dans les modalités d'évaluation des laboratoires des scientifiques au niveau de l'HERS ou d'autres. Et puis, c'est aussi de travailler sur l'appropriation des sciences participatives plutôt qu'une injonction à faire des sciences participatives. Donc comment, petit à petit, nos partenaires et nos institutions comprennent ce que sont véritablement les sciences participatives. Donc c'est une synthèse rapide. J'ai essayé de tenir le temps à peu près. Mais on va en reparler tout au long de la journée. En tout cas, voilà, vous connaissez un petit peu mieux le réseau participatif.